La journée selon Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut Ève-Marie.
On parle du combat des élèves, de certaines élèves de l'école Joseph-François Perrault pour un code vestimentaire moins discriminatoire. Ça fait quand même jaser partout. C'était la une du Soleil, du Devoir aussi. Elle s'appelle les carrés jaunes. Elle réclame, je résume, OK, de pouvoir porter des shorts qui cachent les fesses, mais pas les cuisses. Alors, on est d'accord pour pas montrer un petit remblai de fesses, là, mais si on peut avoir juste des shorts qui cachent les fesses, ça serait correct. Des leggings. Porter un legging sans un chandail qui va recouvrir les fesses. Ou porter des camisoles à bretelles spaghettis, est-ce que ça pourrait être possible, la question est posée. Ou des chandails qui laissent voir les épaules et le dos. Qu'est-ce que tu penses de leur initiative, toi?
Ben, moi, je trouve ça sympathique qu'ils en fassent une sorte de mouvement de revendication plutôt que de se mettre à défier le règlement puis à mettre ce qu'elles veulent. Je trouve que ça a plus de portée, ça suscite plus de réactions, de réflexion aussi. Puis tu sais, je trouve qu'elles ont un argument valide dans l'aspect arrêter de dire aux filles comment s'habiller. Mm. Et quand elles disent, écoutez, on nous dit qu'on peut pas mettre des trucs qui vont montrer nos épaules parce que ça va déranger les gars, ben dans ce temps-là, c'est les gars le problème. Faut que t'éduques les gars, ça fait partie de ça aussi. Et si vraiment tu penses que de voir des bouts de peau, ça va te faire capoter, je pense que, tu sais, je parle de mon expérience personnelle, là.
Oui, oui.
Mettons qu'à cet âge-là, c'est tellement une invention fantastique, les filles, t'es tellement intriguée, là, tu sais, début du secondaire, disons, là. Moi, elle mettait des cols roulés puis des gros chandails en laine, puis je les trouvais dérangeantes quand même, tu sais. Donc, là-dessus, je trouve qu'il y a un point de vue qui est valide et qui mérite discussion sur le fait que, hey, c'est pas à nous autres à nous habiller en fonction du regard des gars. Mm. Là-dessus, je trouve qu'il y a une discussion intéressante qui est lancée.
Ouais, il reste qu'il faut quand même avoir la discussion, je pense, tu me diras si t'es d'accord. Je transpose avec ce qui se passe chez nous, là, parce que moi, j'ai une belle ado de 15 ans à la maison. Moi, j'y vois l'occasion de parler de bienséance, tout simplement. Mm-hmm. C'est-à-dire s'habiller convenablement pour des occasions. Puis aller à l'école, pour moi, c'est une occasion. Il y a un code vestimentaire. Au même titre que si j'avais un gars, moi, je dirais, ta casquette en classe, c'est non. Tu mets pas ça. Mm-hmm. Tu la mets pour partir de la maison, t'en aller à l'école, mais à un moment donné, il faut que tu te découvres. Faut qu'on...
T'as raison, mais... Ça ne veut pas dire laissons-les faire ce qu'elles veulent, mais elles ont raison sur le point suivant. La société est toujours en train de dire aux filles comment s'habiller.
Ouais.
Et là, tu sais, quelqu'un qui faisait remarquer sur mon Facebook, OK, pourquoi sont obligés de porter des jupes? Ça ne peut pas être des Bermudas. Les Bermudas, eux autres, c'est les gars. Là, évidemment, on parle d'une école ou d'une commission scolaire en particulier. Mais le point de vue selon lequel les filles doivent s'habiller d'une certaine façon pour ne pas provoquer les gars, c'est ce que les islamistes disent aux femmes pour justifier le port de toutes sortes de voiles.
Ouais.
Je sais que c'est une comparaison qui a ses limites, mais c'est le même genre d'argument. Donc, si on veut leur passer le message que, écoute, il y a des façons de s'habiller selon les occasions, parfait, pas de problème. Mais l'argument selon lequel les filles vont provoquer les gars, je trouve que c'est pas un bon argument. Puis si on fait tomber cet argument-là, peut-être qu'on va tolérer certaines choses. Puis, écoute, l'adolescence, c'est le moment de toutes les expérimentations. C'est pas sûr. Je pense pas qu'il y a des filles qui vont arriver en bikini. Puis c'est pas correct d'arriver en bikini comme c'est pas correct d'arriver en bikini au travail.
Mm-hmm.
Mais je trouve que tout le monde est intéressant, je te dirais, dans ce débat-là. Même la direction. La direction a pris la peine de répondre aux questions des journalistes au lieu, j'oublie le nom de la directrice, là, elle a donné des entrevues, elle a donné ses arguments, elle a écouté ceux des élèves et elle s'est pas cachée en disant, mais vous appellerez le service des communications de la commission scolaire. Il y a quelque chose que je trouve d'intéressant dans tout ça. Est-ce que ça va changer? Je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu regardes ceux qui se plaignent des uniformes et la façon dont on contrôle les uniformes dans les écoles, puis uniforme, ça peut être uniforme officiel, mais ça peut être aussi, tu sais, des vêtements civils, ben, je pense que c'est plus les filles qu'on contrôle. Puis il y a quelque chose, je pense, quelque chose de subconscient là-dedans. On est plus obsédé comme société par la façon dont les filles s'habillent, puis on essaie davantage de contrôler ça.
En tout cas, je te rejoins, Patrick, sur ce que tu disais au début. 5 points pour les jeunes qui participent à cet exercice d'opinion, de structurer sa pensée, essayer d'aller de l'avant avec des argumentaires. Bravo, bravo. Puis évidemment qu'à cette école-là, ça va avoir fait jaser, c'est sûr. Bonne nouvelle pour ta profession, pour la profession de journaliste. La confiance des Québécois envers les journalistes s'est accrue depuis un an. Parce qu'il faut bien le dire, là, les journalistes, les vendeurs de voitures avaient très mauvaise presse.
Écoute, j'ai jamais trop su à quoi ça tenait, OK? Et quand on interprète ces résultats-là, parce que il y a souvent des sondages qui montrent ça, là, que les journalistes sont pas populaires, quand on interprète ça, je pense qu'on jette beaucoup de nos propres biais, de nos propres préjugés, de nos propres certitudes sur les journalistes quand on analyse. Des fois, ils sont trop ci, sont trop ça, sont trop ci, sont trop ça, mais souvent, les gens qui disent ça de toute façon. Mm. Regarde, mon expérience, là,
ouais.
Ma courte expérience, 15 ans de chronique, des milliers de courriels reçus par année, généralement, là, les gens, quand ils me critiquent, c'est pas parce que j'ai fait une erreur dans un nom, c'est pas parce que j'ai commis une entorse au code de déontologie des journalistes. La plupart du temps, quand je suis un mauvais journaliste à leurs yeux, là, c'est qu'ils sont pas d'accord avec ce que j'écris. Et ça vaut ce que ça vaut, mais ces gens-là, bien souvent, ils vont, je me dis, ils répondent à des sondages chez les journalistes un jour, puis parce qu'ils n'ont pas aimé une chronique, parce qu'ils n'aiment pas la façon d'être ou d'approcher d'un journaliste, ben ils vont. Est-ce que c'est eux autres qui font que dans les sondages, on est aussi populaire que les vendeurs de voitures? Je le sais pas. Mais l'autre variable qui est intéressante ou plutôt déprimante, c'est qu'il y a très peu de gens qui consomment les médias. Je pense que quand tu regardes ce sondage-là, c'est quoi? C'est
les deux tiers.
Les deux tiers ne consomment pas régulièrement des nouvelles.
Mm-hmm. C'est
ça,
beaucoup.
Ça m'inquiète quasiment autant que le phénomène des fake news.
Ouais, les téléphones intelligents, l'hyperconnexion, c'est facile. On peut au moins avoir les manchettes de l'actualité. Depuis que je te parle, moi, ça n'arrête pas dans mon téléphone. Je suis abonné à plein, que ce soit Radio-Canada, que ce soit TVA Nouvelles. Tu sais, c'est le budget, là, ça sort. Il nous envoie des alertes. Faut vraiment pas s'abonner pour pas être au courant de ce qui se passe, là.
Mais je le sais, là, que c'est pas tout le monde qui lit les journaux d'un bout à l'autre, qui regarde tous les téléjournaux. Je comprends ça, là. C'est pas leur job. Mais qu'il y ait autant de Québécois qui ne consomment pas de nouvelles ou d'actualités, tu sais, je te disais, ça m'inquiète presque autant que le phénomène des fake news. Ceci explique aussi un peu cela, tu sais. S'il y a tant de gens qui sont pas habitués à consommer des nouvelles puis à comprendre comment fonctionnent les médias, comment sont présentés les faits dans les nouvelles, ben tu comprends pourquoi tout le monde est en train de partager sur Facebook des remèdes contre le cancer puis des grands complots sionistes. Là, tu sais, là. Tu comprends que les gens sont... Il y a beaucoup de gens, il y a une masse critique de gens qui n'ont pas de littératie médiatique.
Et qui vont se fier à des opinions qui vont être véhiculées par des médias.
Et qui vont se fier à des opinions qui sont criées bien fort. Mm-hmm.
C'est ça.
Je ne sais pas si vous avez vu, Patrick et Eve-Marie.
Oui.
Ça va aussi loin que ça. Cette semaine, il circule sur Facebook. C'est une vieille image de 2007, je pense, de la WWE, la lutte, où on voit Trump se faire gifler au visage par le fils de Ed McMahon. Il y a des gens qui partagent ça, puis la description en dessous, c'est Trump qui rencontre le président mexicain. Et il y a des gens qui partagent ça sérieusement, des gens que je connais, que je sais intelligents, repartagent ça comme si ça se pouvait que quelqu'un fasse une petite gifle au visage de Trump puis niaise avec sa cravate lors d'une rencontre officielle.
Au sommet. On se questionne donc pas.
Ça va mal, notre affaire.
Ben, tu sais, non seulement t'as des gens qui sont pas habitués à décrypter les médias, le deux tiers des Québécois dans notre cas, mais en même temps, je pense qu'il y a bien des gens qui partagent et qui croient à des contenus semblables parce que ils aimeraient donc ça que ce soit vrai.
C'est ça. Mais tu sais.
Non, mais c'est vrai. Ce serait tellement plus simple de penser que la CIA a organisé le 11 septembre 2001. Ça toucherait à des cordes plus simples à comprendre que les véritables raisons qui sont géopolitiques, historiques, etc. Mais même affaire avec l'autisme. Ce serait donc plus simple si l'autisme c'était causé par les vaccins. C'est simple à comprendre, mais c'est plus simple à comprendre puis c'est plus réconfortant que, écoute, on ne sait pas ce qui cause l'autisme. Mais les gens veulent croire à des affaires comme ça, mais moi je crois que le fait que il y a tant de gens qui ne pratiquent pas les médias, qui ne consomment pas de nouvelles, ben ça amplifie le phénomène des fake news.
Saluons là-dessus l'initiative de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes, qui organise des ateliers dans les écoles secondaires maintenant pour aider les jeunes juste à savoir c'est quoi les questions de base pour débusquer une fausse nouvelle, pour savoir si ta source est fiable, juste pour avoir un petit peu plus de jugement sur les médias sociaux. Moi, cette année, j'ai trouvé que c'était une super initiative de leur part. Puis en même temps, quand tu leur parles de ça, les jeunes, tes intéresses à l'actualité. Puis ça va devenir, à un moment donné, des lecteurs de journaux ou des lecteurs de sites Internet de sources fiables. Dis-moi, Patrick, est-ce que ça sent le baseball chez vous? Parce que je peux juste te dire que l'odeur passe pas vraiment à Drummondville. Là. Ça s'est pas rendu au Madrid, puis c'est pas rendu à Québec du tout.
Ça sent le baseball comme à tous les printemps depuis 4-5 ans, là, quand les Blue Jays viennent jouer. Je pense que c'est leurs deux premiers matchs de l'année au Stade olympique. 25 000 personnes hier. Il paraît qu'il va y en avoir à peu près autant ce soir. Puis, les fans de baseball voient là une sorte de signe. Écoute, il y a le marché à Montréal pour le baseball est toujours vibrant, etc. Écoute, moi, je me rappelle qu'à l'époque où les expos étaient là, même dans les belles années, les premiers matchs de la saison, le stade était plein. Et après ça, ça déclinait. Donc, 25 000 un lundi soir, c'est bien. C'est même pas notre équipe. C'est parfait. Mais pour moi, le problème reste entier. Philippe Quentin, dans sa chronique de la presse aujourd'hui, posait très bien la question. Est-ce que ce qui a fait que les expos sont partis de Montréal, est-ce que ces conditions-là se sont améliorées? Est-ce que Montréal pourrait pas remplir le stade? Parce que la plupart des stades de baseball en Amérique sont pas pleins tout le temps. Est-ce que tu peux avoir 20 000 personnes à chaque match? Je le sais pas. Sincèrement, moi, je le sais pas. Est-ce qu'il y a un tel engouement que les expos de Montréal 2.0 vont pouvoir aller se négocier un sacré gros contrat de télévision avec un diffuseur local? Et par sacré gros, là, on parle de dizaines de millions de dollars. Pas sûr. Tu sais, c'est le fun. C'est sympathique. Moi, une expérience d'été bien, bien le fun, c'est d'aller dans un stade de baseball américain puis de regarder un match le soir. Tu sais. Vraiment, c'est trippant. Mais je ne sais pas si on a le marché à Montréal puis c'est pas deux matchs par année, des matchs événementiels qui vont me faire douter du fait qu'il y a un marché pour le baseball à Montréal personnel.
De toute façon, là, faut s'occuper de la ferveur des fans de hockey. Il y a ça aussi qui est en danger chez vous, là.
oui. Non. Mais tu sais, j'aimerais ça que le baseball fonctionne. Ça donne une énergie. Je pense que Montréal était mieux avec les expos que sans expos. Mais quand tu commences à gratter puis tu vois que le retour va forcément passer par un minimum d'argent public pour construire un stade, moi j'ai des grosses réserves.
Ouais, puis comme les spectateurs ou ceux qui suivent des équipes professionnelles aiment les gagnants, c'est en ayant une équipe qui performe puis qui gagne que tu remplis ton stade ou que tu remplis ton aréna, même ton stade de football aussi. Tu veux le remplir, faut que ton équipe gagne. Puis ça, c'est difficile là, de se tancer à Montréal. Là.
Ben, les Alouettes ont moins de succès et ont plus de difficultés à remplir leur stade. Canadiens, de ce temps-là, on n'est pas dans le creux de vague du début des années 2000, là, où tu voyais des sièges vides au centre Belle, centre Molson, là.
Ouais.
Pour le Canadien, mais c'est moins dur que c'était à obtenir des billets du Canadien. T'as raison là-dessus, Eve-Marie. Le succès sportif, c'est aussi un gage d'achalandage à Montréal.
Tout à fait. Salut, Patrick. Merci de nous avoir parlé.
Salut. Bye.
À la semaine prochaine. Bye.